Bonsoir à toutes et à tous. Alors, si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que j'ai souvent l'habitude, mais sans m'en rendre compte, de baisser le ton de la voix, surtout dans les fins de phrase. Donc, si vous n'entendez pas, ou si je parle trop vite, car c'est aussi là un de mes défauts, n'hésitez pas à me faire signe. Avant d'entrer dans le sujet, je vous mettre sous la lumière de l'Esprit Saint, qui est le véritable maître intérieur, il habite en nous. Le langage de Dieu, c'est le silence. Alors c'est en silence que chacun de nous invoque l'Esprit Saint présent au fond de son âme. Demandons à la Vierge Marie qu'elle nous rende docile au souffle de l'Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Lambert,
priez pour nous.
Saint Jean de la Croix,
priez pour nous.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
priez pour nous.
Alors, ce soir, nous allons parler de la foi, qui est évidemment extrêmement importante dans la prière, puisque le but de ces entretiens, c'est de nous apprendre à prier, et particulièrement de cette forme de prière qu'est l'oraison, la prière silencieuse, la prière du cœur à cœur. Toute rencontre avec Dieu ne peut se faire ici-bas que dans la foi. Ce que nous devons dire de la foi pour la prière est évidemment valable aussi pour toute rencontre avec Dieu et particulièrement dans les sacrements. Je vous rappelle que l'Eucharistie, c'est le mystère de la foi, mysterium fidei. Il est grand le mystère de la foi, nous dit le prêtre, lorsqu'il vient de consacrer le pain et le vin au corps et au sang du Seigneur. Pour que la grâce de Dieu soit efficace en nous, il faut que nous y croyions. Le chrétien est un homme, une femme de foi. La foi au Dieu un et trine, la foi au Fils qui s'est incarné, nous avons célébré ce mystère à Noël, la foi en l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs, et la foi en l'Église dont nous sommes les membres, dont le Christ est la tête, pour former un seul corps, dans l'attente de la résurrection bienheureuse. Je vous renvoie au credo que l'on professe tous les dimanches et pour les grandes solennités. Donc la foi. Le catéchisme de l'Église catholique définit ainsi la foi. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé et que la Sainte Église nous propose à croire parce qu'il, Dieu, est la vérité même. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier librement à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. Le juste vivra de la foi. La foi vivante est celle qui est agie par la charité. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier librement à Dieu. C'est s'en remettre, s'abandonner à Dieu, faire confiance à Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre, ou plutôt en comprenant que nous ne comprenons pas. Vous avez des gens qui disent « je ne crois pas parce que je ne comprends pas ». C'est l'inverse. Il faut croire pour comprendre. Et lorsque l'on comprend, c'est pour mieux croire. Saint Augustin qui dit ça. La foi dépasse l'entendement, la raison, l'intelligence. Elle est au contraire. Elle dépasse. Et Saint Jean de la Croix, peut-être aujourd'hui, dit à Jésus-Christ que la foi est une nuit. Et qu'il s'agit ici-bas d'avancer dans la nuit. C'est-à-dire au-delà de ce que nos sens et surtout de ce que notre intelligence peut saisir et comprendre. Mais je le dis tout de suite, l'oraison étant un échange avec Dieu, quand on donne sa foi à Dieu, il répond et il illumine notre intelligence. Et il nous fait entrer dans ses secrets. On ne force pas la porte de Dieu. On l'attire par notre foi, par notre espérance et par notre amour. Les trois vertus théologales qui marchent toujours ensemble. Saint Jean de la Croix dit que l'âme qui se met en quête de Dieu revêt, porte, trois livrets, trois amis. Un blanc, un vert, un rouge. L'habit blanc de la foi, l'habit vert de l'espérance, l'habit rouge de la charité. Et dans son cantique spirituel, il dira la foi et l'amour sont deux conducteurs d'aveugle, ça veut dire que tu marches dans la nuit, qui te conduiront jusqu'aux profondeurs du Dieu vivant. Importance de la foi. L'Écriture nous parle de l'importance de la foi. Ce n'est pas une invention de l'Église ou des saints. L'Écriture, Dieu nous parle de l'importance de la foi. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il nous est dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se donne à ceux qui le cherchent. » Si vous lisez le passage dans la lettre de, dans la Bible de Jérusalem, la traduction c'est qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je préfère dire qu'il se donne, parce que c'est la joie de Dieu de se donner. Rémunérateur, ça fait un peu mercantile, donnant. Or, le don de Dieu est toujours gratuit. Saint Paul lui le dit. Quand il parle du salut, c'est un don gratuit, moyennant la foi, dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Mais, comme dit Saint Jean de la Croix, si on a la foi, alors là, oui, on plaît à Dieu. Et de fait, avez-vous remarqué dans l'Évangile que rien ne fait plus de plaisir à Jésus que la foi que l'on met sans réserve en lui? Il exulte devant la foi des païens, le centurion par exemple. Jamais En Israël, je l'ai vu une telle foi. Luc 7, versets 1 et suivants. Ou bien la cananéenne, cette femme qui vient supplier Jésus de guérir sa petite fille, et qui s'entend dire, il n'est pas bon de prendre le pain sur la table des enfants pour le jeter aux petits chiens. C'est un peu dur quand même comme parole. Et la réponse de la femme, c'est vrai, maître, Seigneur. Mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Ô femme, ta foi est grande. Qu'il advienne selon ce que tu veux. Jésus s'émerveille devant la foi. Il a provoqué la foi de cette femme. Et il s'émerveille devant cette foi. Il se désole aussi devant le manque de foi, devant le manque de foi des pharisiens en particulier, mais surtout devant le manque de foi de ses propres disciples, hommes de peu de foi. Comment se fait-il que vous ne croyez pas? Et non seulement ils sont des hommes, mais sa grande inquiétude, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. C'est intéressant. Jésus ne dit pas, quand il viendra, trouvera-t-il la sainteté? Trouvera-t-il la vertu? Non. Trouvera-t-il la foi? C'est ça qui est premier. Et c'est ça qui va conditionner le reste. Parce que la foi vive que l'on met en Dieu, elle va se traduire dans les actes, dans la manière de vivre selon la parole de Dieu. Montre-moi ta foi qui n'agit pas, moi c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. C'est dit dans l'épître de Saint Jacques. Saint Jean, dans le chapitre 20 de son évangile, qui est la première finale, après il a rajouté le chapitre 21, avec la pêche miraculeuse, Saint Jean termine le chapitre 20 en disant « Tout ce qui a été écrit, c'est pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et pour que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. » Donc le but de l'évangile, c'est de nous amener à la foi en Jésus. Et lorsque Jésus lui-même fait des miracles, c'est toujours en raison de la foi de celui qui le demande. Pensons au paralytique, Luc 5, 17, lorsqu'on est obligé vers le toit pour descendre le paralysé. C'est voyant leur foi. Jésus dit aux paralysés, tes péchés sont pardonnés. Pas tout à fait ce qu'il attendait. Et alors comme les autres se scandalisent en disant que Dieu seul peut pardonner les péchés, ben, il faut que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors je te le dis, lève-toi et marche. La guérison physique est importante, mais plus importante encore, la guérison spirituelle. C'est ce qui s'opère avec la pécheresse chez Simon, Luc 7, 36, 50. Cette femme qui vient, cette prostituée qui vient se mettre au pied de Jésus, au grand scandale de Simon le pharisien. Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme. Et Jésus va relever cette femme de ses fautes en disant « Ta foi t'a sauvée. » Thérèse de Lisieux voit dans cette femme Marie-Madeleine. Et dans un très beau commentaire, elle dit « Lorsque je vois Madeleine s'avancer au milieu des convives, je sens qu'elle a compris les abîmes d'amour du cœur de Jésus. Et elle sait que ce cœur est non seulement disposé à lui pardonner, mais plus encore à l'élever jusqu'au plus haut degré de son intimité. Même si nous sommes de grands pécheurs, eh bien, il faut que nous allions avec foi devant le Seigneur. Saint Jean de la Croix nous dit que la foi est le moyen prochain et proportionné pour l'union de l'âme avec Dieu. Car cette vertu théologale, comme le disait le catéchisme de l'Église catholique tout à l'heure, vertu, c'est-à-dire puissance, moyen, théologale, parce qu'elle a Dieu pour objet, cette vertu théologale atteint sûrement son objet. C'est une vertu surnaturelle. Dieu est surnaturel. Seul un moyen surnaturel peut me faire entrer en Dieu. L'intelligence, la raison, va me parler de Dieu, oui, et c'est important. Parce que je ne peux pas croire en Dieu si jamais personne ne m'en parle. Il faut que je le connaisse. Mais l'intelligence ne me donne pas Dieu. Le discours sur Dieu ne me donne pas Dieu. Il me parle de Dieu, oui, mais il ne me donne pas Dieu. Or, ce que l'âme qui prie veut, et surtout l'âme du chrétien, qui est mue par la grâce, baptismale, qui est le fondement même de notre vie surnaturelle, de notre vie spirituelle, participation à la nature divine, ce que nous voulons, c'est entrer en Dieu, nous unir à Dieu, étreindre Dieu, puisque la prière est un échange d'amour, et quand on aime, eh bien on veut étreindre l'être aimé, ne faire qu'un avec l'être aimé. Eh bien la foi, elle, surnaturelle, dépasse l'intelligence sur laquelle elle est greffée, cependant, pour nous permettre d'entrer en Dieu. Voilà pourquoi Saint Jean de la Croix, dans son poème de la nuit obscure, chantera « Ô nuit bienheureuse, nuit qui m'a guidé, nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui a uni l'aimé avec son aimé, l'aimé dans l'aimé transformé. » L'âme unie à son bien-aimé qui est Dieu. C'est la foi qui nous le donne. Seule la foi peut nous permettre d'entrer en Dieu. Et elle nous permet de connaître Dieu comme il se connaît. Car elle est une vertu de connaissance. Et c'est pour ça qu'elle est greffée sur notre intelligence et qu'elle a besoin de ce support de l'intelligence. Ce qui veut dire qu'il faut nourrir notre intelligence des articles de la foi pour permettre à la foi de s'exercer. De nourrir notre intelligence avec, évidemment, pas le dernier roman à la mode, mais avec les écrits spirituels, l'enseignement de l'Église, les écrits des saints, et surtout, par-dessus tout, la Sainte Écriture. La parole de Dieu, c'est elle qui doit nous amener à la foi. Thérèse de Lisieux dira que c'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons. En lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. J'y trouve toujours de nouvelles lumières. Parole de Dieu qui s'illumine. Comme dit le psaume 118, verset 130, un très long psaume. Ta parole, en se découvrant, illumine et les simples comprennent. Dieu illumine, quand on pose l'acte de foi, Dieu illumine et nous fait découvrir, comprendre les secrets de l'Écriture. Quand il viendra, l'Esprit Saint, il vous conduira vers la vérité tout entière. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit. Mais il faut quand même qu'il y ait ce travail de l'intelligence pour approfondir notre connaissance. va lui permettre de nous unir à Dieu. Et elle va toucher son objet sûrement, avec certitude. Le Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, car écrit dans son livre « Je veux voir Dieu », Dieu est amour toujours diffusif. De même qu'on ne peut plonger sa main dans l'eau sans se mouiller, ou dans un brasier sans se brûler. De même, on ne peut prendre contact avec Dieu par la foi sans puiser en sa richesse infinie. Ça serait aussi miraculeux de ne pas puiser en Dieu, toucher Dieu, atteindre Dieu par un acte de foi, que de mettre sa main dans l'eau et ne pas être mouillé, ou sa main dans le feu et ne pas être brûlé. Encore que, il ne faut pas dans la vie spirituelle parler d'automatisme, il faut se garder de parler d'automatisme. Rien n'est automatique, car Dieu se donne gratuitement. Mais il répond à l'acte de foi, qui est toujours accompagné d'un acte d'espérance, puisque la foi est la garantie des biens que l'on espère, dit la lettre aux Hébreux, et que c'est la ferme espérance, dit Jean de la Croix, qui touche le cœur de Dieu et obtient de lui tout autant qu'on en espère. Eh bien, on a des exemples dans l'Évangile. Il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Connaissez le passage de l'hémorroïde, Luc 8, 43-48. Jésus a vu venir vers lui Jaïr, qui vient réclamer la guérison de sa petite fille qui est malade, et Jésus s'en va au milieu de la foule avec ses disciples. Et justement, au milieu de la foule, il y a une femme qui est malade, atteinte d'un flux de sang depuis longtemps, et qu'aucun médecin n'a pu guérir. Elle a entendu parler de Jésus. Peut-être même a-t-elle assisté à des miracles de Jésus. Et donc, elle a entendu parler de Jésus. Donc son intelligence a capté quelque chose. Et puis, elle réfléchit, elle médite. Et elle pense que si cet homme est capable de faire de tels actes, s'il est capable de parler d'une manière qui soulevait les foules, c'est que certainement il vient de la part de Dieu. Alors elle se dit, eh bien si seulement j'arrive à toucher la frange de son manteau, je serai guéri. Voilà l'acte de foi. Mais accompagné, j'allais dire, d'un geste matériel. Et elle se ferait, autant qu'elle peut, un passage dans la foule, et puis elle touche le manteau de Jésus. Vous pouvez toucher le manteau de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Et pourtant Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples disent, mais enfin Seigneur, tu es au milieu de la foule, tout le monde te touche. Et Jésus répond, non, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Alors il se retourne, il voit la femme toute tremblante, qui dit ce qu'elle a fait. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. La main de la femme avait touché le manteau de Jésus. Sa foi avait touché Dieu, et Dieu a répondu, car Jésus est Dieu. Vous le savez, et vous le croyez, nous lisons dans le Credo. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Le petit enfant de la crèche que nous contemplerons bientôt, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Créateur du monde. Mais là, il faut le sacrer. Acte de foi pour le découvrir et pour y entrer. Voilà cette efficacité de la foi. Il y en a un autre exemple que j'aime citer souvent, c'est celui du bon larron. En Luc 23, 39, 45, j'ai dit, c'est encore plus fort, la foi du bon larron. Parce que l'hémorroïde, bon, Jésus est, je vais dire, un peu au fait de sa gloire. Il est dans sa mission, pendant sa vie publique. On le porte presque, enfin, à certains endroits, on voudrait le porter au nu, puisqu'il sera obligé d'aller se cacher pour qu'on ne fasse pas de lui un roi. Tandis que le monde avant, ça se passe au calvaire. Alors là, c'est la nudité complète, la pauvreté complète, l'écrasement complet. Et pourtant, celui qui est sur la croix, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Créateur du monde, celui qui maintient tout à l'existence. Jésus est là. Et ses deux bandits sont là avec lui. Et l'un des deux, nous avons injuré Jésus. Et puis il lui dit, ben, descends de la croix, puis descends-nous avec. Et le compagnon lui va dire, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Il a entendu parler de Jésus aussi, et de ce que Jésus... Rien fait de mal, sous-entendu, bien sûr. Et il se tourne vers Jésus, vers ce crucifié qui est là. Et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Voilà l'acte de foi. Et cet acte de foi touche Dieu, et Dieu répond, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tout acte de foi touche Dieu et donne une joie sans mélange à Dieu. Aussi, notre prière, elle va être une succession d'actes de foi. D'abord, pour poser cet acte de foi, il faut se mettre en présence de Dieu. Nous pouvons prier partout. Pas simplement dans une église. On peut prier dans le métro ou sur la place publique. Puisque Dieu nous porte en nous. Il s'agit simplement de se mettre en présence de Dieu. Mais évidemment, avant de prier dans le métro ou sur la place publique, il faut aussi se ménager des temps de silence, soit dans une chapelle quand on peut, soit dans un petit coin de prière que l'on peut mettre chez soi. Devant une icône, devant un crucifix, devant une image de la Vierge, etc. Chacun le fait comme il veut et comme il peut. Donc se mettre en présence de Dieu. Puis ensuite, il faut orienter notre esprit vers Dieu. Et c'est là où on revient à la lecture de la parole de Dieu en particulier. Thérèse d'Avila, grande maîtresse d'oraison, dira qu'il ne faut jamais partir à l'oraison sans un livre, même si on ne le lit pas. Parce qu'on ne va pas là-bas à la prière pour faire de la lecture. La lecture n'est qu'un moyen pour nous aider à poser l'acte de foi. Et puis, on reste en silence et on pose cet acte de foi. Je crois. Il y a une maxime de Jean de la Croix que j'aime beaucoup, qui est très éclairante à ce sujet. Il dit, cherchez en lisant, vous trouverez en méditant, appelez en priant, il vous sera ouvert en contemplant. Cherchez en lisant, je nourris mon intelligence, mais je médite aussi. Et je trouverai, vous trouverez en méditant, c'est-à-dire, il y a ce qui est dans l'Écriture, et puis il y a ce qui est sous l'Écriture. Et l'Esprit Saint va me le révéler. Thérèse de Lisieux dit, l'Évangile m'apprend, mon cœur me révèle. Par exemple, quand elle cherche sa place dans l'Église, elle lit chez saint Paul que l'Église est un corps avec différents membres. Son cœur lui révèle que l'Église a un cœur. Alors que Paul ne parle pas du tout du cœur. Et Thérèse a raison, parce qu'un corps qui n'a pas de cœur n'est pas un corps vivant. Donc vous trouverez en méditant, appelez en priant. Prie ton Père qui est là dans le secret. C'est l'acte de foi. Appelez en priant, je crois. J'espère et j'aime. Je crois, j'adore, j'espère et j'aime la prière que l'ange avait enseignée aux enfants de Fatima. Il vous sera ouvert en contemplant. Dieu se donne quand je fixe mon regard sur lui. Car contempler, ça veut dire regarder. Et quand je fixe le regard de foi sur lui, Dieu se donne. Il vous sera ouvert. Ce n'est pas nous qui ouvrons, c'est Dieu. Il y a cependant une difficulté qui n'est pas des moindres, c'est que si la foi atteint certainement son objet qui est Dieu, elle est obscure, elle est une nuit, et c'est dans la nuit que l'on doit, dans cette nuit de la foi, que l'on doit s'unir à Dieu, s'approcher de lui sans voir, sans le voir vous l'aimer, sans le voir encore mais en croyant, dit saint Pierre dans sa première lettre. Jean de la Croix nous dit, Dieu est au-delà de tout entendement, il est incompréhensible et inaccessible. Pour s'approcher de Dieu, il faut faire taire le raisonnement, suivre le chemin de la foi et croire. Mais au-delà de toute compréhension, c'est par la foi et par l'œuvre de Dieu. On s'approche plus de lui sans comprendre qu'en comprenant. Mais c'est lui qui nous fera comprendre, qui se révélera. C'est pourquoi, dit saint Jean de la Croix, plus une âme a de foi, plus elle est unie à Dieu. Mais il faut qu'elle accepte de rester dans cette vie. J'ai plus désiré ne pas voir le bon Dieu et les saints et rester dans la nuit de la foi que d'autres désiraient voir et comprendre, dira la petite Thérèse quelques jours avant sa mort. Donc acceptez de marcher dans la nuit. C'est vrai qu'il y aura des moments où cette nuit sera un véritable combat, comme Thérèse de Lisieux l'a vécu pendant les 18 derniers mois de sa vie. Elle ne pouvait pas imaginer une seule seconde qu'on ne puisse pas croire en Dieu. Je disais, ceux qui disent ça parlent contre leur pensée. C'est impossible de ne pas croire en Dieu. Et elle dit, Jésus m'a fait comprendre qu'il y a des âmes qui n'ont véritablement pas la foi. Il a permis que mon âme soit envahie par les plus épaisses ténèbres. Et ça va être un combat, au point qu'elle écrira le credo avec son sang, qu'elle gravera « Jésus est mon unique amour » sur le chambranle de la porte de sa cellule, et qu'elle fera beaucoup plus d'actes de foi que pendant toute sa vie. Et cependant, au lieu de se replier sur elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va offrir cette épreuve pour les incroyants, pour que le lumineux flambeau de la foi brille à leurs yeux. Il faudrait que dans notre prière, nous portions ceux qui n'ont pas la grâce de croire, pour que leurs yeux s'ouvrent, pour que les yeux du cœur, les yeux de la foi s'ouvrent, et qu'ils découvrent le Dieu de toute tendresse, qu'ils le découvrent dans la foi. Dans une délicieuse petite parabole, la parabole du petit oiseau, Thérèse est consciente de sa faiblesse. Elle dit cependant, moi j'ai les yeux et le cœur nécessaires pour fixer le soleil de l'amour, c'est-à-dire Dieu, les yeux et le cœur, la foi et l'amour, ces deux conducteurs d'aveugle qui nous conduisent jusqu'aux profondeurs du Dieu vivant. Et elle dira, même lorsque le soleil se cache, c'est l'épreuve de la foi, eh bien quel bonheur de rester là quand même, à fixer l'invisible lumière qui se dérobe à notre foi. Il nous faut un guide pour marcher dans la foi, parce que ce n'est pas évident. Quel meilleur guide que Marie, Marie qui brille particulièrement en ce temps de l'Avent, Marie, tabernacle qui voile du Sauveur la divine beauté, comme le chant de Sainte Thérèse de Lisieux. Marie qui va mettre au monde le Fils de Dieu qui s'est incarné en elle. Elle est la bienheureuse qui a cru. C'est par la foi et dans la foi qu'elle a accueilli le message de l'ange et qu'elle a répondu à la demande de Dieu. Être mère du Sauveur. C'est dans la foi qu'elle a reçu la confirmation d'Élisabeth au jour de la visitation. Et de sa foi et de son amour en jaillit son chant que l'Église reprend chaque soir à Vêpres, le Magnificat. C'est dans la foi qu'elle a mis au monde son fils dans la pauvreté de la crèche. Qu'est-ce qu'elle a vu lorsque l'enfant est né? Un petit enfant comme les autres, qui ne se distinguait en rien des autres. Il n'y a pas de lumière qui jaillissait de son front. Et pourtant, dans la foi, Marie a accueilli le Verbe de Dieu. Le Verbe Dieu, comme l'appelle Thérèse de Lisieux. Et elle a raison. Car Saint Jean nous dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il est Dieu. C'est dans la foi qu'elle l'a accueilli, comme Joseph d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier, ce bon Saint Joseph. Lui aussi, c'est un homme de foi. Et d'une foi qui agit, hein, qui répond à la demande de Dieu. C'est dans la foi que Marie va accompagner la croissance de son enfant pendant les 30 années à Nazareth. Marie est extraordinaire. Jésus n'a pas fait de miracle à ce moment-là. Ces 30 années, dans l'Évangile ne nous dit rien, sont extrêmement importantes. Parce qu'elle nous dit l'importance de la vie ordinaire vécue dans la fidélité, c'est-à-dire dans la foi au Dieu vivant qui est là, au cœur même de nos vies. C'est dans la foi que Marie va chercher Jésus, à chercher Jésus à Jérusalem, lorsqu'il s'est caché, enfin lorsqu'il est resté à Jérusalem à l'âge de 12 ans. C'est par sa foi qu'elle obtient de lui son premier miracle. Là aussi, on voit le mécanisme. Ils n'ont plus de vin, que t'importe, mon heure n'est pas venue. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà l'acte de foi de Marie. Et Jésus demande qu'on remplisse les 6 jarres de 100 litres d'eau, 600 litres de vin et du meilleur. Quand le bon Dieu fait les choses, il ne fait pas la moitié. C'est dans la foi que Marie écoutait la parole de son fils. Et on le sait quand elle, Jésus est en train de parler et on dit « Ta mère était ferme, mon ami te cherche. » Et elle va recevoir dans la foi cette parole « Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la gardent. » Marie ne s'en offusque pas parce qu'elle est bien une de ceux qui ont écouté la parole de Dieu qui la gardent. C'est dans la foi qu'elle est au pied de la croix de Dieu qui est heureuse. Et qu'elle reçoit le testament de Jésus. Chaque baptisé, chaque chrétien, en Saint Jean, comme Jean, devient l'enfant de Marie. Et c'est dans la foi qu'avec les disciples, elle est en prière pour appeler la venue de l'Esprit Saint. Oui, Marie est celle qui nous guide dans la foi. Et Thérèse avait raison de lui chanter « Mère, ton doux enfant veut que tu sois l'exemple de l'âme qui le cherche en la nuit de la foi. » Je vais terminer en citant un grand samarial, Saint Louis-Marie-Grégoire de Montfort, qui nous invite à nous approcher de la Vierge. Et il nous dit, c'est dans le traité de la vraie dévotion, « La Sainte Vierge vous donnera part à sa foi. Plus vous gagnerez la bienveillance de cette Vierge fidèle, plus vous aurez de pure foi dans votre conduite. Une foi pure qui fera que vous ne vous soucierez guère du sensible et de l'extraordinaire. Une foi vive et animée par la charité, qui fera que vous ne ferez vos actions que par le motif du pur amour. Une foi ferme et inébranlable comme un rocher, qui fera que vous demeurerez ferme et constant au milieu des orages et des tourments. Une foi agissante et perçante, qui vous donnera entrée dans tous les mystères de Jésus-Christ, dans les fins dernières de l'homme et dans le cœur de Dieu même. » Eh bien, c'est par la foi que dans la prière, nous entrons dans le cœur de Dieu.